Alors, vous avez compris que le but des prochaines années, c'est que la rubrique architecture soit un modeste élément de la grande rubrique urbanisme, sachant que pour le moment, c'est l'inverse, mais l'apprentissage prend un peu de temps. Alors, j'espère que le fait que je sois seul à vous parler ne vous déçoit pas trop. On avait mobilisé Thierry Pacot, qui a été la première personnalité de notre rubrique Grand Entretien. Bon, il n'a finalement pas pu venir, mais on le mobilisera une prochaine fois. Et puis, quand j'aurai épuisé mes forces et mes thèmes, je pense que pourront prendre la parole Xavier Rosan, directeur du Festin, Thierry Aublet, qui est sociologue et membre de notre comité de rédaction, et puis Antonio González de l'AURBA, qui a dirigé le dossier Marche du numéro 2. Alors, je voudrais vous parler très, très amicalement, hein, on est entre nous, et je vous remercie d'avoir bravé la pluie, le froid et les microbes. Je voudrais vous parler de trois grands sujets. Premier sujet, les revues. Pourquoi est-il important que des revues existent? Et je mélangerai les grandes tendances historiques et ma petite histoire personnelle pour vous parler de ça. Deuxième grand sujet, l'urbanisme. L'urbanisme, c'est pas l'architecture à grande échelle, c'est autre chose. J'essaierai de formaliser ce message qui me semble important. Et puis, troisième sujet, le plus important, la marche à pied. Voilà. Alors, pourquoi c'est important, à l'heure du numérique, de continuer à fabriquer des revues? Je pense qu'intellectuellement, on peut considérer que l'expression écrite reste le moyen le plus efficace pour formaliser une pensée. Je pense qu'on peut dire ça. Et une revue qui traduit cette formalisation de la pensée, c'est la certitude qu'on fait une pause, voilà, dans une vie échevelée, dans des réunions quasi perpétuelles. Et puis, c'est la certitude qu'on accumule. Voilà. Il me semble que ces deux aspects, la pause pour réfléchir. Depuis un peu plus de 3 ans que je suis ici, je n'entends que des techniciens et des élus qui me disent « on n'a pas le temps de réfléchir ». Ce qui pose quand même problème au bon déroulement de la démocratie et du côté éclairé des décisions publiques. La pause, donc, et puis l'accumulation, pour ne pas avoir sans cesse le sentiment de revenir sur les mêmes sujets, ou quand on revient sur les mêmes sujets, de pouvoir s'appuyer sur l'existant, faire de la bibliographie, comme on dit. Et c'est assez troublant, c'est vrai, de voir aujourd'hui les étudiants arrêter leur bibliographie après la naissance d'Internet, comme si avant il n'existait rien. Heureusement, Internet sait aussi mobiliser les archives, donc ça se passe mieux. Mais voilà, je crois que de ce point de vue-là, inventer une revue aujourd'hui, c'est aussi un acte politique et citoyen par rapport à cette ambition de réflexion éclairée. Alors, je ne parle pas souvent de moi parce que ce n'est pas très intéressant, mais j'ai quand même un rapport un peu particulier aux revues. Donc, je vais vous parler de moi en vous parlant de 4 ou 5 revues. En 1969, l'Atelier parisien d'urbanisme, la Pure, sort sa revue, numéro 1, Paris Projet. Alors, en 69, j'ai 15 ans, je suis en première au lycée Louis-le-Grand à Paris, je suis un très bon élève, et j'ai vécu mai 68, qui a beaucoup parlé de la ville. Henri Lefebvre, grand sociologue urbain, était venu à Louis-le-Grand parler d'urbanisme, et je me dis... J'ai envie de faire de l'urbanisme. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Je commence à cerner un peu la chose et je me suis abonné à Paris Projet. Voilà. Donc, premier rapport avec les revues. Alors, Paris Projet n'existe plus vraiment. Donc, d'une certaine manière, Cambo est une filiation de, de, Paris Projet, ce qui montre bien qu'il se passe beaucoup plus de choses intéressantes à Bordeaux qu'à Paris. Mais ça, vous en étiez tous convaincus et moi, je le suis depuis quelques années. Alors, j'ai grandi en âge et en sagesse. Et puis, après mes études, pendant mes études, dans le genre petit boulot, je voulais faire un peu de journalisme. Et le Nouvel Observateur avait créé une revue qui s'appelait Le Sauvage. Voilà, Le Sauvage, revue d'écologie urbaine, écologie urbaine. C'était nommé Alain Hervé, je crois, qui dirigeait cette revue. Voilà, et j'avais en particulier écrit quelques notules dans ce numéro, La Vraie Ville. Bon, graphiquement parlant, c'est un peu daté, mais vous retrouvez de la verdure sur les toits, hein, végétalisation des toitures, agriculture périurbaine, éolienne, voilà. Continuité. Voilà. Et puis, comme je voulais faire de l'urbanisme et que j'avais besoin de petits boulots, j'ai découvert qu'il y avait une revue qui venait de se créer, qui s'était créée en 1974 et qui s'appelait Métropolis. Alors, Métropolis, c'est très intéressant parce qu'à l'époque, et j'en viens comme ça ainsi au futur sujet, à l'époque, il y avait la revue Urbanisme qui était en fait une revue d'architectes. Revue d'architectes qui, entre guillemets, se prenaient pour des urbanistes, en partie à juste titre, mais c'était des architectes. Et on était à la fin des années, donc au milieu des années 70, la loi d'orientation foncière, le ministère d'équipement, les ingénieurs des ponts qui trouvent que ça serait bien qu'ils deviennent les experts de la ville, parce que ben, dans les campagnes, il n'y avait plus grand-chose à faire. Et on invente l'urbanisme à la française et toute une profession se crée, hein, à travers ce qu'on appellera ensuite la mise en œuvre des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs, etc. Et Métropolis, c'est le contre-feu, finalement, à la revue Urbanisme. C'est une revue qui s'appelle à l'époque Urbanisme, Planification Régionale, Environnement, hein, et qui, donc, veut inventer un urbanisme qui ne soit pas, qui soit autre chose que de l'architecture. Et donc, en 1975, j'écris mon premier article, le schéma d'aménagement de l'aire métropolitaine marseillaise. Et à l'époque, on dénonçait déjà beaucoup le mitage des campagnes avec tous ces mauvais citoyens qui voulaient avoir leur maison avec leur piscine au-delà des périmètres urbains. Comme beaucoup de revues, cette revue a vécu. Elle est arrivée au numéro 108. Donc, voilà, on peut souhaiter à Cambeau déjà une telle longévité. Et il se trouve que c'est moi qui me suis occupé du dernier numéro. Ça s'appelait Projet politique de transport, expertise en débat. Voilà, donc vous voyez une certaine continuité intellectuelle. Alors, en fait, j'ai mis très longtemps à concrétiser mon rêve d'adolescent, puisque pendant 30 ans, j'ai eu une longue parenthèse avant de devenir presque pour de vrai urbaniste, et j'ai fait de la recherche et de l'enseignement. Et j'avais créé avec Gabriel Dupuis une revue qui s'appelait Flux, dont je suis toujours directeur de publication, et qui était une revue qui s'intéressait depuis un quart de siècle maintenant aux réseaux et aux territoires. Voilà. Donc c'est une revue très, très ennuyeuse, très académique. Vous voyez que la maquette est d'une illisibilité totale. Mais il y a des lecteurs et on en est à peu près au numéro 90. Voilà. Et il y a eu des numéros un peu anticipatoires sur la ville numérique, sur le développement durable, bien sûr, sur la question du coût de l'étalement urbain. Et voilà. Et puis, Métropolis ayant disparu, je suis allé rejoindre le comité de rédaction de la revue Urbanisme, qui, elle, avait justement évolué et avait repris un peu l'esprit éditorial de la revue Métropolis. Et le numéro qui vient de sortir il y a une semaine, c'est Urbanisme à 80 ans. Voilà. Donc, anniversaire, 80 années, et le fac-similé du numéro 1, 1932. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que les cahiers de la métropole bordelaise sont certes une émanation de l'acteur collectif métropolitain, mais qui a aussi une petite filiation personnelle qui m'a fait avoir envie de proposer à l'agence et à ses partenaires de créer cette revue. Alors, pourquoi cette revue aujourd'hui à Bordeaux et pourquoi une revue d'urbanisme ? Ça sera mon deuxième sujet autour de cette question d'une définition de l'urbanisme. Alors, je crois d'abord que depuis quelques années, on peut prendre comme date l'arrivée d'Alain Juppé, le projet urbain, et puis ensuite le projet métropolitain, la question de la ville, de la croissance de la ville, prend une place prépondérante dans les débats. Alors, parce qu'il y a ce processus qu'on appelle de métropolisation, parce que les questions sociales ou économiques ont beaucoup aujourd'hui une traduction urbaine. Et d'une certaine façon, la question urbaine englobe les questions de société, les questions d'évolution de mode de vie et les questions les plus prégnantes pour les individus et les ménages que sont l'habitat, les transports, etc. Vous regardez Sud-Ouest, grosso modo, la moitié des articles de Sud-Ouest, de fait, c'est des questions d'urbanisme liées à la ville, liées au développement urbain, liées au transport. Et il nous a semblé important, dès lors qu'à juste titre on dit que ces questions urbaines sont des questions citoyennes, nous a semblé important, on va dire un peu pompeusement, d'éclairer les débats. Parce que ces questions d'urbanisme, elles ne sont pas si simples que ça. Voilà, il faut rentrer un peu dedans, il faut comprendre ce que veulent dire les chiffres, ce que veulent dire les mots. Et donc, c'est vrai que dans les cahiers de la métropole bordelaise, il y a un première ambition d'acculturer les citoyens, les techniciens, les élus à ces questions urbaines. D'où une quinzaine de rubriques qu'on retrouve dans chaque numéro et ces rubriques qui se veulent, autant que faire se peut, simples, didactiques, sont là pour, un apprentissage collectif des questions urbaines. Et c'est d'autant plus vrai que souvent, on confond, d'une certaine manière, l'architecture et l'urbanisme. Moi, quand je me mets à oser dire que je suis urbaniste, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais on me répond tout de suite, ah oui, bien sûr, vous êtes architecte. Donc ça m'énerve beaucoup, parce que je ne suis pas architecte, je ne le regrette pas, mais ça montre que, en général, on considère que l'urbanisme, c'est d'abord un acte de construction, et en plus qu'en termes de construction, c'est une maison à grande échelle. Et Alberti, au XVe siècle, a écrit des choses là-dessus en disant, la ville, c'est une grande maison. Et donc, il me semble là qu'il y a deux quiproquos, deux erreurs. D'abord, s'agissant simplement de l'acte de bâtir, non, la ville n'est pas une grande maison. Et quand il y a des ruptures d'échelle, il y a aussi des ruptures d'organisation. Et puis surtout, l'essentiel de ce qui fait la ville, c'est son fonctionnement. C'est le stock, c'est l'existant, et c'est la manière dont on utilise le stock. Même dans des agglomérations comme Bordeaux, où il y a une forte croissance démographique et donc un fort développement urbain, l'essentiel des problèmes urbains, ce n'est pas ce qui se construit, c'est ce qui est là et la manière dont on fait fonctionner ce qui est là. Donc moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vrai que l'action publique a souvent besoin de visibilité, de photos dans les journaux. Moi, j'appelle ça le syndrome du ruban rouge. C'est-à-dire, les élus, ils aiment bien couper des rubans pour inaugurer. Et c'est légitime de donner à voir ce qu'on fabrique. Et c'est peut-être plus compliqué de donner à voir ce qui est plutôt dans l'ordre du « soft », entre guillemets, des modes de fonctionnement. Alors, pour essayer d'expliquer ça à mes interlocuteurs, j'ai essayé de formaliser un peu la manière dont on pouvait définir et comprendre l'urbanisme. pendant 30 ans, on m'a demandé ce que je faisais. Et quand j'essayais d'expliquer ce que je faisais, je n'y arrivais pas. Être chercheur, c'est une espèce d'univers à part. Donc là, j'aimerais bien, pendant les quelques années où je fais un vrai métier, arriver à expliquer de quoi il s'agit. Et c'est ce que j'ai essayé de développer dans l'éditorial du numéro 2, en disant finalement, un urbaniste, il organise les distances. Il les régule, il les programme, il les construit, il les gère. Il organise les distances, il régule le proche et le lointain. Voilà. Entre les gens, entre les bâtiments, entre les activités. Et finalement, si on regarde bien, les grandes questions urbaines, elles peuvent effectivement assez facilement répondre à cette grille d'analyse. La mixité, ce qu'on appelle la mixité, voilà, c'est de se poser la question et éventuellement élaborer des moyens de faire se rapprocher, ou pas trop, des gens qui ont des modes de vie et qui appartiennent à des catégories sociales différentes. Ce qu'on appelle la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire le mélange des activités et du résidentiel, c'est la même chose. Voilà. Est-ce que sur les bassins à flot, on considère que des ateliers de réparation de yachts peuvent être à proximité de logements d'habitat résidentiel? Tout ce qui a à voir avec le paysage, et le paysage, c'est, d'une certaine manière, c'est des perspectives qu'on ouvre ou qu'on ferme, c'est aussi dans la représentation, hein, dans les images mentales qu'on peut ensuite produire, se dire que la rive droite est plus proche ou devient plus proche de la rive gauche, à travers les transports, bien sûr. Voilà. Et donc, grosso modo, une bonne partie, moi j'aurais tendance à dire même peut-être l'ensemble des questions urbaines, peuvent se décliner à travers cette grille d'analyse. Les continuités écologiques, les délimitations, les zonages, etc. Et dès lors qu'on considère que faire de l'urbanisme, c'est donc réguler le proche et le lointain, les outils pour répondre à cette ambition, ils sont extrêmement diversifiés. Donc il y a les outils de l'architecte urbaniste, qui sont les outils de la composition urbaine. Hein, quand David Mangin parle de la ville passante et dit que le maillage autoroutier il est trop grand, donc que ça fait faire plein de détours. Quand Christian de Porzamparc invente ce qu'il appelle l'îlot ouvert, par rapport à l'îlot fermé haussmannien ou par rapport à l'îlot sans frontières des objets posés sur une grande pelouse, il est dans cette question de l'organisation de la distance. Mais quand un ingénieur transport réfléchit sur la meilleure vitesse sur une infrastructure, il régule aussi le proche et le lointain. Quand le Conseil général décide de faire une tarification unique à 2,50 €, on appelle la postalisation des tarifs, c'est comme le timbre-poste, de facto, on rapproche les différents territoires du Conseil général, de la Gironde. Quand on réfléchit au paysage urbain, quand effectivement, comme je disais, on ouvre des perspectives, lorsqu'on dessine un plan, hein, y a une très forte structuration mentale d'une représentation d'un territoire par les plans. Hein, le fameux plan de métro, du métro de Londres, hein, qui a servi de modèle à probablement des milliers de plans dans le monde, il est assez faux du point de vue des distances réelles, entre guillemets. Mais par sa représentation graphique, il rapproche de facto les lieux. Voilà. Donc, l'urbaniste, il ne s'intéresse pas vraiment aux lieux. Il s'intéresse aux liens. Il s'intéresse aux interrelations. Et on pourrait définir, même si là ça devient un peu limite du point de vue conceptuel, mais on pourrait peut-être définir un lieu comme un territoire où la distance est nulle, justement. Georges Perec, que j'utilise beaucoup pour une citation, il dit « Le quartier, c'est l'endroit où on n'a pas besoin d'aller parce qu'on y est déjà. Bah, » Typiquement, voilà, dans son quartier, la distance est nulle. Hein, c'est la ville en bas de chez soi. Et ça, pour le coup, c'est un boulot d'architecte, de concepteur. Le problème du campus, Talence-Pessac-Gradignan, c'est peut-être justement que ce n'est pas un lieu. Parce que quand il faut aller de l'école d'archi à l'Institut d'urbanisme, ben, on sent qu'il y a de la distance. On sent qu'on est dans le lointain. Voilà. L'agence d'urbanisme, elle est au bassin à flot. Peut-être que pour de vieux Bordelais, les bassins à flot, c'est loin, c'est à peine Bordeaux. Bon, pour ceux qui arrivent à l'agence d'urbanisme et qui ne connaissent pas encore Bordeaux, pour eux, les bassins à flot, c'est au centre de Bordeaux. Voilà. Donc, la question de faire lieu, quelque chose que je trouve également intéressant. Et là, on est bien effectivement dans un boulot de conception. Voilà. Donc, l'urbaniste, il fabrique des espacements, si on ne veut pas utiliser le mot espace. Et je pense qu'on peut s'amuser à tester cette grille d'analyse, peut-être à la simplifier un peu pour ensuite avoir une réponse facile et rapide. Vous êtes urbaniste, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire aussi que l'urbaniste, c'est un collectif. C'est un collectif parce que, justement, la diversité des outils qu'il a dans sa boîte pour réguler ce proche et ce lointain, elle est beaucoup plus multidisciplinaire que celle de l'architecte. Et il y a des débats sans nom chaque année à propos du Grand Prix de l'urbanisme que mon prédécesseur Francis Cuiller a obtenu il y a quelques années, parce que la plupart du temps, c'est des architectes qui ont ce Grand Prix de l'urbanisme. Et c'est des architectes parce que les architectes, il faut qu'ils individualisent leur discours. On fait venir ce qu'on appelle maintenant les star-architectes. Alors que l'urbaniste, je dis ça un peu sans fausse modestie, si je puis dire, l'urbaniste doit être un homme modeste parce qu'il doit se fondre dans son collectif, parce qu'il doit faire appel à l'ingénieur transport, à l'ingénieur en agronomie, au paysagiste, à l'économiste, au sociologue, etc. Donc il n'est que le porte-parole, d'une certaine manière, d'un collectif. Et là encore, effectivement, on voit surtout par rapport à la culture actuelle de l'architecture et à la volonté, là encore légitime, du politique, souvent d'avoir un interlocuteur individualisé, que de ce point de vue-là, effectivement, l'architecte, c'est un homme de profession libérale, comme on dit, et puis parce qu'il a, surtout en France, cette trajectoire issue des beaux-arts, parce que c'est censé être un artiste, un créateur, de ce point de vue-là, il a, c'est vrai, je dirais, un avantage comparatif par rapport à l'urbaniste en tant qu'institution collective. Et de ce point de vue-là, ben, la librairie Mola évolue, et c'est très bien, mais en même temps, on voit bien qu'on est encore dans le rayon beaux-arts, finalement. Donc, encore un effort camarade, si je puis dire, pour ancrer l'urbanisme sur un chapeau plus large. C'est ce qui se fait à l'étranger. Dans tous les pays du monde, vous avez un rayon... Urban Studies, Cities, vous n'allez pas au rayon Beaux-Arts puis au rayon Architecture pour trouver des ouvrages sur la ville et l'urbanisme. Donc nous, il y a cette tradition, il y a la tradition des écoles d'architecture liées aux Beaux-Arts, liées au ministère de la Culture, tout ça va peut-être évoluer. Mais ça fait qu'effectivement, les urbanistes ont un statut un peu particulier en France. Troisième et dernier sujet, la marche à pied. On en a fait notre dossier du numéro 2. Le dossier du numéro 1, c'était Bordeaux-Ville cosmopolite. Le dossier du numéro 3, ça sera Où va la ville, avec une réflexion sur la question de l'étalement urbain. Et puis après, programmation à voir, mais on vous parlera des quatre saisons de la ville. On vous parlera du bipôle potentiel Bordeaux-Toulouse, voilà, et d'autres sujets à venir. Alors, La marche, on dit la marche à pied, c'est certes un pléonasme, mais en même temps, ça permet de... Quand on dit marche à pied, on comprend que c'est en ville. La marche, en, voilà, en français, c'est la randonnée, plutôt. Hein. Alors, pourquoi c'est un sujet important, je dirais, au-delà de son caractère sectoriel? C'est un sujet important parce qu'il agrège, il synthétise les grands problèmes urbains. Il agrège la question les questions de mobilité, bien sûr. Hein. On a écrit que le piéton, c'était la cellule souche de la mobilité. Hein. Là encore, si on change un peu les lunettes, si on se dit que finalement, tout système de déplacement n'est qu'une aide à la marche du piéton, hein, on voit les choses un peu autrement. Et de fait, c'est ça. Hein. On est tous marcheurs, même pour faire... ne serait-ce que quelques mètres pour aller chercher sa voiture. Donc, le piéton est au cœur des questions de mobilité, qui sont elles-mêmes au cœur des questions de fonctionnement urbain. La mobilité, ce n'est pas une politique sectorielle, c'est ce qui fait tout fonctionner. La marche, c'est aussi au cœur de ce qu'on appelle parfois l'urbanité, hein, c'est-à-dire le fait qu'on a inventé des villes pour que des gens qui ne se connaissent pas se côtoient. Voilà, c'est ça la ville finalement, autrement on n'aurait pas besoin de la ville. Voilà. Et c'est très compliqué finalement de faire en sorte que des gens qui ne se connaissent pas acceptent d'être entassés à 5 au mètre carré, un peu plus dans le métro parisien, sans se taper dessus. Et il a fallu inventer au 19e siècle effectivement des codes finalement, hein, d'urbanité, de civilité, pour que cette optimisation des interactions entre les individus puisse se passer correctement. Et de ce point de vue-là, la marche est le vecteur essentiel de cette urbanité. Hein. Sans la marche, on ne croise ni son voisin, ni l'étranger, entre guillemets, qui est dans la ville et qui vous apporte la diversité, l'hybridation, le métissage. Et puis, peut-être un peu paradoxalement, la marche, il me semble qu'elle est aussi au cœur de ce qu'on appelle le processus de métropolisation, qui a en partie à voir avec le fait que Bordeaux, je veux dire, devient une grande ville. Et c'est dans les grandes villes qu'on marche le plus. C'est pas la campagne, c'est pas dans le périurbain. Alors, on peut faire des progrès. Mais voilà, la ville en France où on marche le plus, c'est Paris, bien sûr. Pour des tas de raisons. Parce que de toute façon, c'est compliqué de prendre la voiture, parce qu'il y a toujours une station de métro pas loin, et parce qu'il y a toujours 50 commerces à 100 mètres autour de chez soi. Et parce que le cadre urbain est agréable et qu'on a toujours fait comme ça, donc on ne va pas se mettre à faire autrement. Et on voit aussi, par exemple, que ce qu'on appelle les grands mobiles, les hypermobiles, ceux qui passent leur temps dans les avions, ce qu'ils aiment dans les villes, c'est de marcher, justement. Hein, c'est d'avoir cette ambivalence de l'hypermobilité et de la marche qui permet la perméabilité avec l'environnement. Et puis la marche a à voir aussi avec ce qu'on appelle, dans notre jargon, la qualité urbaine, hein, c'est-à-dire avec à la fois la fonctionnalité des espaces publics, le rapport sensible à l'environnement. Tout ça, c'est lié à la marche, mais je sais qu'il y a beaucoup de convaincus déjà dans l'assistance. Et donc, Antonio nous a concocté un beau dossier sur la marche. Sachant alors que c'est un vieux sujet, je termine de ressortir mes archives. En 1981, moi j'avais fait une analyse bibliographique qui s'appelait « Les déplacements piétonniers » avec un beau dessin que m'avait donné Piem. Et il y avait eu une note de lecture dans Le Monde, voilà, ce qui est assez quand même étonnant. En 81, en gros, sur 100 déplacements, dans les villes françaises, il y en avait un tiers qui était fait à pied. Aujourd'hui, il y en a un quart. Voilà. Donc, certes, il y a un frémissement de renouveau de la marche, mais voilà, il faut savoir effectivement que depuis 30 ans, la marche a perdu du terrain, si je puis dire, et donc il y a de vrais efforts de politique publique, de changement de comportement, de prise de conscience à faire pour que cette marche reprenne la place légitime qu'elle doit avoir dans nos villes. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. J'espère que je vous ai donné envie peut-être d'interroger les fabricants de la revue. Vous aurez des numéros de Cambo deux fois par an. Il nous a semblé que c'était à la fois en correspondance avec nos capacités de production, puisque Cambo est élaboré à la fois par les équipes de l'agence d'urbanisme et puis par des universitaires qui nous ont rejoints dans le comité de rédaction. Et puis que, ben, comme il y a quand même 80 pages à lire, voilà, les capacités d'absorption du lectorat pouvaient aussi être en correspondance avec ce rythme de parution. On va peut-être s'arrêter là. Hein? Merci beaucoup, en tout cas, de votre présence. Et vous avez compris que la lecture de Cambo était indispensable pour continuer à comprendre le monde dans lequel vous vivez.